Il est 8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français, c'est avec Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Arnaud.
À la une, le terrorisme de l'après.
De l'après-califat en Syrie et en Irak, car il ne faut pas être fin analyste pour le relever. Malgré la perte annoncée de son territoire, malgré ses revers militaires, le groupe État islamique est loin d'être à terre. Daesh après Daesh, c'est à lire ce matin dans Libération. L'organisation terroriste reste en effet capable de frapper, y compris aux États-Unis, puisque c'est en son nom que Saifullah Saipov a lancé sa camionnette sur des cyclistes. Pas de fief, pas de ligne de front non plus en Occident pour y envoyer ses combattants, mais l'EI attaque dès qu'elle peut en passe de retourner à la clandestinité sur ses terres historiques. Écrit Libération, le groupe djihadiste s'est disséminé à travers le monde, de l'Europe à l'Afrique en passant par l'Asie du Sud-Est, avec des combattants qui parfois n'ont jamais mis les pieds sur les terres du califat, tel est le cas de l'auteur de l'attaque de Manhattan. CNN a fait les comptes. Entre juin 2014, date de la proclamation de son califat en février et février 2017, Daesh a commis ou inspiré plus de 140 attentats dans 29 pays qui ont tué au moins 2000 personnes. L'attentat de New York n'est que la confirmation que le terrorisme islamique est en mesure de frapper partout. Il n'y avait malheureusement que Donald Trump et une partie du peuple américain pour se croire à l'abri, d'après le journal régional L'Alsace. Alors qu'il ne lui reste que 10% de son territoire syro-irakien, l'organisation tourne maintenant le regard vers l'Asie, d'après le chercheur Didier Chaudet. Interrogé par Libé, la crise des Rohingyas en Birmanie est selon lui du pain béni pour Daesh, qui cherche à faire de l'Arakan, le territoire de la minorité musulmane persécutée, la nouvelle Palestine. La logique est de se déplacer vers l'Asie centrale, analyse Didier Chaudet, le désir de viser la Russie, plus faible que les États-Unis et ses alliés post-soviétiques, est de plus en plus fort, comme celui de viser la Chine. En attendant, l'attentat de New York, écrit Laurent Geoffrin dans son éditorial, montre la faiblesse paradoxale des mesures de restriction des libertés dans la lutte contre le terrorisme. Non, poursuit-il, le recul des libertés n'assure en rien le progrès de la sécurité. Une phrase à méditer alors que l'état d'urgence a pris fin hier en France après quasiment 2 ans.
La fin d'un régime d'exception remplacé par une nouvelle loi antiterroriste.
L'exécutif en vient à transformer des mesures exceptionnelles en lois ordinaires parce qu'il a, comme beaucoup, la conviction que le terrorisme s'est durablement installé, résume le quotidien régional La Voix du Nord. Le texte pérennise en effet plusieurs mesures de ce régime exceptionnel. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat public sur ce sujet, regrette La Croix, alors que les discussions parlementaires ont-elles été sacrifiées à l'urgence. Lutterons-nous mieux contre le terrorisme en court-circuitant nos procédures démocratiques, se demande La Croix, qu'il nous soit permis d'en douter. Toujours est-il que pour le journal L'Opinion, c'est un fait. Confrontés à une routine terroriste depuis 2015, les Français réagissent aux attentats avec moins de stupéfaction et acceptent désormais de renier leur liberté. Il faut bien reconnaître que l'émotion est presque plus forte pour la joggeuse assassinée et brûlée en Haute-Saône que pour les deux jeunes femmes tuées à la gare Saint-Charles de Marseille, juge le sociologue Michel Wieworka. Toujours dans les colonnes de L'Opinion, les Français, selon lui, semblent considérer que l'on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir ce type d'attentat, qu'il considère désormais donc comme un fait divers.
Et dans ce contexte, quelle place pour la justice antiterroriste ?
Question posée par Libération ce matin, à quelques heures maintenant du verdict du procès d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, le tueur de Toulouse et Montauban. Et c'est Slate.fr qui lui répond quasiment cathartique. Voilà donc le rôle de ces procès liés aux attentats terroristes très difficiles à mener. Celui de Merah en a été la preuve. La justice française vivra aujourd'hui un moment crucial de son histoire. Les magistrats de la cour d'assises spéciale le savent. Ils seront un baromètre, écrit Libé, pour les dizaines d'audiences à venir. Une sorte d'immense séance d'exorcisme, reprend Slate. Mais on peut regretter que, comme dans ce procès, les auteurs manqueront à la barre. Après 5 semaines, la cour n'aura finalement pas réussi à se sortir de ce dilemme intrinsèque, résume de son côté La Croix. C'est Mohamed Merah que l'on voudrait voir jugé et non son frère. Dès lors, quel procès possible après la mort de 86 personnes à Nice, tant de blessés et un coupable ayant déjà échappé à toute poursuite pénale, se demande encore Slate. Et que penser des futures audiences concernant le 13 novembre? Comment organise-t-on le procès d'une telle histoire?
La justice à laquelle Carles Puigdemont ne se soumet pas.
Le président destitué de Catalogne ne se rendra pas à sa convocation par la justice à Madrid ce 2 novembre. Il n'a pas quitté la capitale belge. Courage, fuyons, ironise la République des Pyrénées. Puigdemont, superstar au plat pays, nous raconte pour sa part le correspondant du journal Le Monde dans son édition matinale. Souriant, il a été aperçu hier à Bruxelles et s'est même prêté de bonne grâce au jeu des selfies. Mais la présence de M. Puigdemont devient un casse-tête pour le gouvernement belge, explique Le Monde, provoquant des tensions et des dissensions au sein de la coalition gouvernementale qui regroupe le Parti libéral francophone et trois formations flamandes, dont l'Alliance néo-flamande Parti nationaliste. Des déclarations contraires en prise de bec, la Belgique pourrait être entraînée dans un conflit international particulièrement néfaste, estime l'éditorialiste du quotidien belge Standard, repris ce matin par Le Monde.
Très loin de Bruxelles, la Croix nous emmène en Corée du Nord.
Visiter l'unique église catholique du pays située à Pyongyang, reportage grand format dans un pays où l'on ne croit pas, où la liberté religieuse n'existe pas en dépit de la constitution qui garantit la liberté religieuse. Sous une vierge aux yeux bridés, Francesco, président de l'association des catholiques de Corée, qui n'est ni prêtre ni diacre, mais pourtant préside la prière, avance le chiffre de 800 croyants à Pyongyang, 3000 dispersés dans toute la Corée du Nord, des descendants des rescapés des grandes purges de l'époque Kim Il-sung, quand en 1948, lors de sa conquête du pouvoir, le fondateur du régime a voulu éradiquer les religions.
Merci Michael Ponge, c'était la revue de presse.